Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la cour d'honneur, saison 2, épisode 3, nous revoilà. Une émission de la bande Radio Sorbonne, diffusée sur Radio Campus. Bienvenue, on t'accueille dans notre amphi ici. Pas de TD, rien que des DM. Oui, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux RSU. Et là pour toi qui galère à trouver ta salle, à trouver des potes, à trouver un bar, à trouver une meuf, on connaît tous les meilleurs plans de la rive gauche, les histoires qui se racontent au Crous, les meilleures façons de gruger le métro et tous les lieux où tu pourras te chauffer gratis cet hiver sans dépenser un rein dans le chauffage de ta chambre de bonne. Ensemble, pendant une heure, on rejoue une fois par mois les meilleurs programmes de RSU, la radio étudiante, la plus vieille fac de France, sur la première radio étudiante de la capitale. Et on te promet plein de choses pendant cette émission. Il y aura bien évidemment de la culture.
I have a dream.
Mais aussi des rumeurs.
Laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns.
Du love pour les plus chanceux. Et surtout, surtout du style avant tout.
Jeff Fada, je crée des gueux, je vous prenne tous ici un par un.
Et bien sûr, avec moi j'ai une équipe bien déter pour vous servir. Bonsoir, Sixtine.
Hello Thomas, le compte à rebours est lancé, c'est bientôt la Coupe du Monde. Sans grande surprise, on a sondé les étudiants au sujet de ce tournoi qui enchante ou désespère.
Excellent, plein de promesses aussi autour de la table. Pauline, bonsoir Pauline.
Salut Thomas, aujourd'hui ça va être l'interview de deux professeurs de la Sorbonne pour moi.
Face à toi Pauline, tu as Tibor qui est là, qui nous rejoint. Bienvenue Tibor.
Bonsoir, je suis allé voir les clients et les patrons des restaurants pour récolter leur avis sur les températures exceptionnelles du mois d'octobre.
C'est vrai qu'il a fait chaud, ça nous a donné soif. Rosalia est avec nous, bonsoir Rosalia.
Salut Thomas, moi je vais présenter la chronique débrouille.
Et avec toi il y a également Clara, fidèle au poste. Clara, on a l'habitude de t'entendre sur cours d'honneur, bonsoir Clara.
Bonsoir, ce soir je vais vous présenter la revue de presse féministe.
Emma est également une des pilières de ce comptoir, bonsoir Emma.
Salut Thomas, moi j'ai parlé des Shadocks.
Et enfin, Abel nous a rejoint. Bienvenue parmi nous, Abel.
Bonsoir Thomas, aujourd'hui je vous présenterai la carte postale.
Et bien sûr, beaucoup d'autres promesses pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Il y aura également le pavé de culture. Tu es ici chez toi, installe-toi et prends place. Le décollage est imminent du haut de l'amphi au fond des chambres de bonne. Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de RSU.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Vous imaginez dans votre petit appart. Nous sommes à la mi-novembre, cela fait plusieurs jours qu'il pleut dehors. Le froid vient vous mordre les pieds. Alors vous restez sous la couette par ce dimanche gris. Vous vous sentez bien seul et démuni face à l'automne arrivant. Et la présence de ce bel être dans votre lit ne vous a pas fait oublier ce métro très bondé, ces gens trop lents, ce café trop chaud, cette béhue surchauffée et cette nuit qui tombe à 5h30. Tu accueilles doucement la mélancolie chaque week-end, ta solitude pour seule compagnie. Alors à quoi bon sortir de son lit? On t'a déjà dit que de toute façon, le monde était fichu, tout le monde, tout avait été tout gâché. Pas de sens, pas d'emploi, pas d'avenir, la déprime saisonnière te prend. Mais là, imagine, d'un coup tu es chez toi, très discrètement, alors tu sors de ton lit sans prévenir celui avec qui tu partages ton lit, ton date Tinder ou cet ex avec qui tu n'avais pas vraiment rompu les liens. Tu avances à tâtons dans ton appart, ta chambre de bonne, la porte s'ouvre et là, tu prends le large, la tangente, l'aventure, personne ne sait que tu es dehors. Toute la liberté s'offre à toi, partez, faites ce pas de côté. Tu sais ce qu'on dit, l'aventure est là où on ne s'y attend pas. S'asseoir à une terrasse, se prélasser avec un bon café, prendre le premier métro, le premier train, le premier tram, direction l'inconnu. Abandonner tout,
Les obligations, les rendez-vous, les sentiments qui vous attachent, pieds et poings liés, débarrassez-vous de tout ce carcan qui vous empêche d'accéder à la plénitude. Là, eh bien vous trichez avec le quotidien, vous dérogez aux règles, jamais vous n'aviez imaginé que ce serait si bon. Tout ça, vous en faites pas, vous le retrouverez bien assez tôt. Mais en attendant, inspirez, vous êtes libérés. Et maintenant que vous soufflez, eh bien, je vais vous donner un de mes trucs pour passer l'hiver sans trop désespérer. Avec un exemple plutôt surprenant, comment les aviateurs anglais ont réussi à maintenir les Allemands loin d'eux pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour bombarder l'Allemagne, il fallait que les avions survivent aux tirs allemands. Et peu d'avions anglais revenaient à la base. Sur ces avions qui revenaient, les ingénieurs de la Royal Air Force ont observé où se trouvaient les impacts de balles et décidé de renforcer avec du blindage ces endroits-là les plus touchés. Mais ça ne marchait pas. Moins d'avions revenaient d'ailleurs. Alors un mathématicien a expliqué qu'il fallait avoir le raisonnement inverse. Les avions qui reviennent avec des trous montrent justement l'endroit où il ne faut pas rajouter du blindage, puisqu'ils peuvent continuer à voler malgré ces trous. Il faut au contraire rajouter du blindage là où ils n'ont pas été touchés, puisque les avions qui, eux, ne reviennent pas, ont sans doute été touchés à ces endroits-là. On appelle ça le biais du survivant, qui consiste à ne tirer d'enseignement que de ceux qui réussissent, alors que ceux qui échouent ont autant à nous apprendre. Donc ne vous en faites pas. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et maintenant, c'est le débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Et dans le débat du jour, on se demande si les étudiants vont boycotter la Coupe du Monde au Qatar, Sixtine.
Le foot, quel plaisir de se poser avec tous ses copains, de crier victoire dans la rue et de chanter en chœur « I will survive », « Ramener la coupe à la maison » et j'en passe. Quoi de plus fédérateur que le foot ? On se rassemble, on s'embrasse ou on s'énerve tous en même temps quand Giroud rate son péno. Mais quand il y a conflit de valeurs entre fraternité et conscience écologique, que faire ? Les étudiants nous répondent.
Est-ce que vous aimez le foot ou pas ? Alors faut dire avec des mots, sinon on va pas entendre vu que c'est la radio.
Non, pas du tout.
Donc vous avez pas du tout envie de suivre la Coupe du Monde qui va venir?
Pas trop fou.
J'ai mis le foot avant, maintenant je suis plus trop.
Toi aussi?
J'ai aimé avant, mais maintenant la passion du foot, je l'ai plus.
Ouais, je pense que je vais regarder la Coupe du Monde la prochaine, ouais.
Oui et non, parce que déjà niveau horaire, j'aurais pas forcément le temps, parce que
ah,
c'est
oui.
Qatar du coup.
Okay, ouais.
Et ouais, de toute façon, dès que la France s'est fait éliminer, moi j'arrête de regarder. Je
ouais.
regarderai vraiment à partir des demi peut-être.
Pareil, je pense que je suivrai les matchs de la France. Et pour le reste, vu qu'il n'y aura pas la même ambiance que d'habitude, parce que c'est pas l'été, je pense que je vais foutre
Non, je ne vais pas regarder la Coupe du Monde par rapport aux ouvriers qui ont construit le stade, les décès, et jouer sur un cimetière, ça m'intéresse pas.
Ça me dérange, et en plus, il y a les mêmes histoires depuis le Brésil. Ça a défoncé des quartiers entiers juste pour les stades. Ça me dérange vraiment, mais le vrai problème, déjà, il est dans l'UEFA et la FIFA, où c'est vraiment des organisations corrompues.
Ouais,
du coup, à partir de là, je sais que moi j'ai un impact. Hein, mais
ça, j'avais surtout vu le truc que du coup ils construisent un truc en plein désert, donc c'est complètement insensé. Et ça, production d'énergie et les conditions de travail aussi, c'est vrai qu'ils sont nuls quoi. Enfin, du coup, ouais, je vois pas l'intérêt de faire dans le désert quoi et de construire un truc alors qu'il y a déjà des trucs qui sont construits pour ça.
Personnellement, je pense pas que le Qatar soit le seul pays à faire ça, mais je trouve ça quand même un petit peu hypocrite de balancer que le Qatar alors que je suis sûr que plein d'autres pays. La Russie a eu lieu à dernière Coupe du Monde, doit faire pas la même chose, mais leur politique doit un peu se rapprocher de ce qui est fait au Qatar, et je trouve ça un peu hypocrite de se réveiller uniquement quand c'est au Qatar.
Ouais, je pense que c'est intelligent de boycotter, ouais. Sur les réseaux, ou de partager, ou au moins de liker des posts, enfin, au moins de se renseigner pour soi, mais je pense, ouais, c'est quand même mieux de, même à une petite échelle, de pouvoir faire un truc, quoi.
Bah oui, c'est bien, mais après, il faut voir s'il y a des résultats. Du coup, le problème, c'est qu'il y a peu de personnes qui sont sensibles à ce genre de questions. Mmh. Et est-ce que c'est si utile, puisque plus de la moitié vont dire, de toute façon, ça se passe pas dans mon pays, donc je vais regarder.
Je pense que chacun peut regarder ou non le match de foot, notamment la Coupe du Monde, mais par rapport à ce qui s'est passé, je pense que c'est mieux concernant les morts qu'il y a eu, ne pas regarder pour soutenir ces personnes-là. Plus on sera nombreux et plus l'impact sera fort.
Ou les pronostics, est-ce que vous pensez que la France va gagner, garder son titre?
Non, j'imagine que non.
Je pense qu'il y a moyen, vu que ça fait quand même deux fois qu'elle gagne, dans les statistiques, bah, elle est forte. Quoi.
La France ne va pas gagner la Coupe du Monde, je pense. Elle sera en quart de finale ou en finale, mais la victoire ne sera pas pour cette année, je pense. Okay.
Aïe.
Franchement, je pense
qu'il y a déjà beaucoup d'absents. Ouais. Et
puis même, on joue mal et tout.
En général, après avoir gagné la Coupe du Monde, celle d'après.
Je pense qu'on peut sortir même en 8e, en quart, un truc comme ça. Je suis français, donc j'espère.
Je pense que ce sera beaucoup de chance qu'ils soient devenus champions. Ah, ils sont les Belges.
Écoute, j'espère que tes pronostics seront faux.
Les avis sont quand même plutôt unanimes au sujet de la Coupe du Monde chez les étudiants. Le boycott sera quand même la réponse à cette catastrophe écologique. Vous, autour de la table, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous comptez déjà regarder la Coupe du Monde ?
Tibor ?
Non, pas spécialement.
Est-ce que tu regardes le foot d'habitude ?
Non.
Est-ce qu'il y a un foot autour de la table ? Abel ? Ah, il lève la main, Abel. Tiens, rapproche le micro de toi.
J'avoue être un footeux. Sur la question de la Coupe du Monde, ouais, j'avoue. Je le dis, je regarderai les matchs au moins de l'équipe de France.
De l'autre côté de la table, peut-être Rosalia, est-ce que pour toi aussi l'engagement politique, c'est justement liker un poste, comme j'ai entendu, je crois, dans le micro-trottoir ?
Pour moi, l'engagement politique, c'est pas forcément liker un poste, mais moi, je pense que je vais suivre au moins les résultats sans regarder les matchs et surtout les débats qu'il y a autour de la Coupe du Monde.
D'accord. Et donc là, si je retiens bien, vous pensez donc que le boycott ne serait pas forcément suffisant, ou en tout cas n'est pas forcément la bonne réponse à ce qui se passe au Qatar. Et est-ce qu'il y aurait d'autres choses à mettre en place ou pas forcément ?
Alors, je pense qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, mais qui doivent être accentuées. Notamment, beaucoup de choses qu'ont faites les équipes qui vont participer à cette Coupe du Monde. Alors, c'est souvent des coups de com', mais ça peut déjà aider. Les brassards aux couleurs LGBT qui vont être portés par certains capitaines, une vidéo, un message en vidéo fait par les joueurs de l'équipe d'Australie qui disent que oui, on participe à cette Coupe du Monde, mais on cautionne pas tout ce qui s'est passé. Malheureusement, l'équipe de France ne suit pas dans cette... Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, a dit qu'il ne porterait pas le brassard aux couleurs LGBT, ce qui est, je pense, une honte. Mais bien sûr, il y a plus à faire. Aussi dans les instances internationales du football, mais ça, c'est un autre débat.
D'accord, ouais, je comprends. Donc en fait, il faut vraiment essayer de diffuser déjà la question, enfin de montrer qu'il y a un problème à ce niveau-là et de faire de la communication autour de ça. J'ai aussi entendu donc un autre argument dans le micro-trottoir au sujet donc du Qatar. La personne disait que c'était le Qatar qui était blâmé en fait pour ce qui se passait. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui est entendable et que à ce moment-là, en fait, elle disait que le Qatar, que tout le monde disait que c'était de la faute du Qatar, alors que c'est pas le seul pays à faire des horreurs à ce niveau-là. Et est-ce que vous pensez que c'est un argument qui est valable?
Alors,
Du moment où le Qatar participe à la Coupe du Monde, c'est qu'il accepte certaines choses. Donc, oui, le Qatar est partiellement responsable de cela, mais pas totalement.
D'accord, oui. Je comprends ce que tu veux dire. D'accord, mais écoutez, on verra comment ça va se passer. Pour revenir à des choses un peu plus gaies, vous, vos pronostics justement pour le championnat, est-ce que vous pensez que la France va garder son titre ?
J'en sais rien personnellement.
J'espère une demi-finale. Il y a quand même beaucoup d'absents. Mais de toute façon, même si la France va au bout, tout ce qui se passe autour de cette Coupe du Monde, ce ne sera pas, je pense, et j'espère pas la même liesse qu'en 2018 ou que les Coupes du Monde précédentes.
Oui, c'est sûr. Merci beaucoup pour ce débat.
Merci Sixtine, allez, on se fait du bien en ce début d'automne pluvieux, on le voit bien, alors que les jours raccourcissent. Je pense qu'il faut se faire un peu de bien, beaucoup de douceur. Quoi de mieux que la fraîcheur du folk d'une chanteuse belge d'origine éthiopienne? Meskerem Mess a seulement 24 ans, elle vient de sortir son premier EP Caesar, 8 titres dont cette reprise Code Liver Oil and Orange Juice. C'est une reprise du chanteur écossais Hamish Imlach. Well, out of the east I came, a hard man, all the way from Brighton, glory, hallelujah, cod liver oil and the orange juice. Went into a pub and he came out paralytic, cider, what a hell of a mixture, cod liver oil and the orange juice. Does this bus go to Denistone Palace? I'm looking for a lumber.
man's shoes. In the dancing he met Harry Mary, the flower of the cobbles, glory hallelujah, cod liver oil and the orange juice. Standing, ah, 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 glory, hallelujah, cod liver oil and the orange juice. Well, then, Mary, you're one in a million, ah, uh-huh. So your chances, ah, uh-huh. Glory, hallelujah, cod liver oil and the orange juice. Funny, cod liver oil and the orange juice. Well, down through the back close and into the dunny, it was near for the first time, glory hallelujah, cod liver oil and the orange juice. But now came her mummy, she was gone to the clergy, I buggered off sharpish, glory hallelujah, cod liver oil and the orange juice. Now Harry Mary's looking for a hard man, he's joined the foreign legion, sad under the commons, cod liver oil.
Cod Liver Oil and Orange Juice par Mesquerem Mess. Ne la ratez pas quand elle passe près de chez vous, puisqu'elle vient souvent en France. C'est souvent juste une guitare voix la plupart du temps et ça fait du bien en ce moment. Glory, hallelujah. Cod Liver Oil and the Orange Juice. Vous êtes bien. Vous êtes bien dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris. On parle de la vie de la Sorbonne et de l'actualité des étudiants et de leurs enseignants.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Pauline, nos invités du jour sont deux chercheuses et enseignantes à Sorbonne Université.
Oui Thomas, et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Clara Royer et Lubaï Jorgensen. Bonjour Clara Royer.
Bonsoir, bonjour.
Bonsoir. Vous êtes enseignante chercheuse à Sorbonne Université, spécialiste des cultures centre-européennes, en particulier celle de la Hongrie. Bonjour, bonjour Lubaï Jorgensen.
Bonjour.
Vous êtes enseignante chercheuse en littérature russe à Sorbonne Université, en particulier celle du 19e et du 20e siècle qui porte sur le témoignage et l'expérience concentrationnaire. Alors, en ce moment, vous travaillez toutes les deux sur la question du paysage des violences. Qu'est-ce que c'est le paysage des violences ?
Eh bien, il s'agit d'enquêter, de traquer les traces de la violence extrême dans les paysages, en sachant qu'on entend par violence extrême, bien sûr, les guerres, les génocides, les famines, les déplacements de population, les camps de concentration ou d'extermination, qui ont en fait façonné et transformé les paysages. L'enjeu, c'est de croiser les études mémorielles avec les études du paysage, c'est-à-dire décentrer aussi cette question par rapport à l'humain, et de voir que les violences de masse en fait agissent sur l'ensemble du vivant et pas seulement sur les humains, et donc d'aller voir ce qui se passe dans les paysages.
Du coup, ça veut dire que c'est vraiment l'Europe qui est marquée par... Enfin, le paysage européen est vraiment marqué par ces violences, mais est-ce que c'est plutôt des violences qui appartiennent au passé ? Est-ce qu'on peut les lier à la guerre en Ukraine en ce moment ?
Tout à fait. D'abord, on voit que la guerre en Ukraine provoque une destruction massive des paysages, de la nature, qui se passe, c'est des transformations qu'on aura encore, dont on a encore du mal à mesurer l'impact, mais voilà, on le verra aussi dans un futur proche. Et bien entendu, puisqu'on parle de l'Ukraine, il s'agit d'un territoire qui a subi tout ce que Timothy Snyder a désigné comme étant les terres de sang, c'est-à-dire ce sont des territoires dans lesquels se sont succédées toutes sortes de violences depuis la Première Guerre mondiale, la guerre civile russe, la Seconde Guerre mondiale, toutes sortes de la famine ukrainienne, très important, et aujourd'hui donc des déplacements de population, des déplacements massifs de population, des crises migratoires, comme on a pu voir récemment. Et aujourd'hui, donc, c'est les ravages de la guerre, l'exil massif de personnes qui sont victimes de ces violences. Donc, oui, ces violences sont tout à fait liées entre elles, puisque encore aujourd'hui, la Russie revendique son droit sur l'Ukraine et la considère comme faisant partie d'un monde russe, c'est-à-dire on est complètement dans une postérité de la mémoire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.
Vous en pensez quoi, Clara Royer ?
J'en pense que c'est exactement ça dont il s'agit. Et donc, en fait, il y a tout un palimpseste à déblayer. Voilà, mais c'est le professeur Jürgensen qui porte ce projet. Moi, je suis un des membres de l'équipe qu'elle est en train de constituer. Et l'enjeu, c'est vraiment d'étudier ces temporalités successives jusqu'au présent. Donc, d'où l'importance de l'Ukraine pour nous. Alors, évidemment, on ne va pas envoyer des chercheurs en Ukraine, mais on essaie de trouver des moyens épistémologiques, d'autres méthodes pour investiguer ce terrain. Voilà.
Et ben, du coup, quelles sont ces méthodes ? Est-ce que ça peut être la littérature ou d'autres...
Absolument.
Oui. C'est la littérature, c'est le témoignage.
Le cinéma.
Le cinéma, la photographie, parce qu'il y a énormément d'images qui circulent aujourd'hui et qui sont faites au jour le jour. Parce que, encore une fois, lorsqu'on pourra enfin, je l'espère, aller en Ukraine pour constater les dégâts sur la nature, le paysage, mais aussi le paysage urbain qui est absolument détruit, eh bien, on aura le stade final de cette destruction. Mais là, il y a des photographes qui documentent les choses au fur et à mesure. Et c'est très important aussi de se tourner vers le passé, vers des photographies du passé, vers les biographies passées de ces paysages, pour savoir comment ils étaient, parce qu'on ne saura plus comment ils étaient avant.
Oui, absolument. Et du coup, est-ce qu'il faut trouver les bonnes sources ? Jusqu'à quel point ces sources elles peuvent témoigner d'une réalité ?
Mais il y a aussi la question des témoins, des témoins et des acteurs qui sont... Alors, que ce soit ceux qui sont en exil, qu'on peut interroger, ou grâce aux moyens de la communication moderne, avec qui on peut se mettre en relation à distance. Mais bien sûr, ce sont des stratégies de compensation d'une enquête de terrain qui supposerait de pouvoir arpenter ces territoires, mais c'est beaucoup trop compliqué. Enfin, c'est pas possible dans les conditions actuelles, bien évidemment.
Oui, mais c'est sûr. Du coup, c'est le même thème, c'est vos travaux de recherche. Enfin, pourquoi vous avez décidé de faire de la recherche ? Pourquoi cette carrière-là ?
c'est une bonne question. Je crois qu'au début, je ne pensais pas. Et en fait, je me suis laissée happer. Il y a quelque chose de l'ordre de... Je crois que si je n'avais pas été chercheuse, j'aurais voulu être inspectrice. Vous voyez ? Quelque chose de l'enquête qui est extrêmement prenant. Et puis, bon, j'étais une passionnée de littérature. Je suis tombée il y a plus de 20 ans dans la littérature hongroise. Et je me suis dit que c'était ça ce que je voulais investiguer. Et à mesure que je découvrais... la culture hongroise. Je me suis intéressée aussi, je me suis rendu compte que je ne voulais pas m'enfermer dans un seul pays, donc je me suis intéressée aux cultures qui étaient voisines. J'ai commencé ensuite par apprendre le slovaque, par m'intéresser aux liens, parce qu'il y avait tout un... la Hongrie, c'était un territoire beaucoup plus vaste. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre aussi cet héritage-là de cette ancienne, soi-disant, grande Hongrie, de comprendre un peu quels étaient les rapports aussi de voisinage. Et puis, plus j'ai avancé dans ma recherche, plus je me suis intéressée. En fait, ça grandit un peu, mais je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les circulations entre l'Est et l'Ouest, à remettre en question l'idée que le rideau de fer était totalement imperméable, à voir qu'est-ce qui circulait et à voir qu'est-ce qui fait la culture commune que nous avons aujourd'hui, en fait. Donc, c'est je crois qu'il y a un petit côté un peu d'engagement. Il y a une curiosité un peu obsessionnelle là-dedans. Et puis, il y a de la passion pour les objets sur lesquels on travaille, bien sûr.
De mon côté, ce qui m'a motivée, parce que je me souviens très bien de ce moment où j'ai décidé de faire de la recherche, parce que j'y suis venue assez tard, j'avais un passé de traductrice et d'écrivain. Et en fait, je m'intéressais déjà à ces sujets sur les violences extrêmes. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était absolument impossible de les travailler, de travailler là-dessus en étant seule. Et donc, je suis venue à l'université pour chercher une communauté qui partagerait ses préoccupations. Voilà, et je l'ai trouvée.
Ouais, enfin, du coup, ça fait plaisir à entendre dans le sens où, en tant que jeune étudiante, souvent, la recherche, on peut voir quelque chose de, comme ça de très solitaire, ou, enfin, alors que finalement, enfin, y a beaucoup d'équipes... qui s'entourent autour de sujets. Et, c'est bien de voir que ce n'est pas qu'un travail personnel, mais aussi collectif.
En fait, on ne réfléchit jamais seul.
Non.
Et d'ailleurs, même quand j'étais seule, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas vraiment seule, qu'il y avait derrière que cette communauté existait et que dès que j'ai voulu l'intégrer, en fait, elle était très ouverte et elle m'a accueillie. Mais déjà, dans la pensée, on n'est jamais seul, parce qu'on va se tourner vers des sources, vers ce que les autres, ce que d'autres ont écrit, ce que d'autres ont pensé. Donc c'est une illusion, en fait, de penser que c'est un métier solitaire.
Et puis ça inclut jusqu'aux étudiants, parce que si on est enseignante-chercheuse, c'est parce que aussi ce qu'on travaille dans la recherche, on le passe d'une façon ou d'une autre aux étudiants, et c'est dans leur réaction, dans leur intérêt aussi, on reçoit aussi des stimulations de leur propre... dans la salle de classe, dans la salle de cours.
D'accord, du coup, en parlant de recherche et du coup pas d'élèves, que représente la Sorbonne pour chacune de vous?
La transmission, je ne sais pas dire autre chose à ce stade, là vous nous prenez un peu, hein. Mais c'est pour moi, c'est vraiment un lieu de transmission, qui d'ailleurs peut être réciproque, parce que comme je vous le dis, c'est pas de la démagogie, c'est que vraiment on apprend des choses de nos étudiants aussi, et nous apprennent à être adultes, d'une certaine façon. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment un lieu de transmission, de circulation, pas seulement des connaissances, mais aussi de méthodes, de questions et d'enjeux politiques, hein, mm-hmm. parce que c'est jamais neutre ce qu'on fait. Ouais. Plein de choses comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un lieu d'échange et
de partage. Ouais, ouais, absolument. Ouais, pour moi aussi. Voilà, je peux raconter une anecdote, mais vous la coupez après si vous voulez.
Ah bah allez-y, ça nous intéresse.
Bah, parce que c'est aussi, moi je suis née à Moscou, hein, et donc la Sorbonne c'était un fantasme, c'était vraiment quelque chose de, voilà, ce qu'on pouvait imaginer de meilleur dans le monde intellectuel, mais on était derrière le rideau de fer. Et donc, c'était un rêve absolument impossible. Et quand on demandait à ma grand-mère où est-ce que vous voudriez que votre petite fille fasse ses études, elle répondait à la Sorbonne. Et on la regardait comme une folle.
Bah, c'est bien parce que maintenant vous êtes à la Sorbonne, donc c'est super. Du coup, c'était le mot de la fin. Donc,
Ben merci beaucoup.
C'est un plaisir
merci
de vous avoir.
Nous avoir reçus.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci Pauline. Merci Clara Royer. Luba Jorgensen, enseignante à Sorbonne Université. Merci d'être venu dans Cours d'honneur. Il est 20h30. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Et maintenant, place au reportage.
C'est sans doute l'une des informations les plus capitales de ces dernières années.
Il est 20h, Moustique arrive à son bureau, et là, c'est le drame.
Et le reportage avec Tibor. Salut Tibor.
Salut. La France a connu en octobre un épisode de chaleur tardif exceptionnel par sa durée et son intensité. Les températures ont été en moyenne supérieures de 3,5 degrés par rapport à la normale. Selon Météo France, le mois d'octobre 2022 est le plus chaud mesuré en France depuis le début des années 1945, le début des mesures. Faut-il profiter ou faut-il culpabiliser de ces températures exceptionnelles? Moi-même et Thomas sommes allés poser la question directement en terrasse.
C'est à la terrasse du Nouvel Institut près du boulevard Saint-Germain qu'on a rencontré Mehdi et ses amis, Mohamed, Mehdi et Paul. Mehdi, étudiant en sciences politiques à Assas, nous a paru satisfait de ces températures.
Bon, on va dire que c'est perturbant dans la mesure où on s'attend à avoir un peu froid et au final on a chaud. Et du coup, j'ai profité totalement de ces températures.
Son ami Mohamed, étudiant en licence d'informatique à la Sorbonne, nous dit ce qu'il a consommé en octobre.
Ah, quand il faisait chaud, une bière bien froide, bien fraîche, un truc qui te rafraîchit bien, tu sais. Parce qu'en octobre, quand il fait chaud, c'est cool de boire une bière un soir.
On a demandé à Paul, étudiant à l'INSA, s'il a profité des terrasses et si ses habitudes ont changé.
Ah bah oui, totalement, parce que du coup, on a forcément l'habitude d'avoir autant de chaleur en octobre, donc on profite tant qu'on peut, quoi. Donc on a un peu plus sorti, un peu plus en terrasse, ça permet aussi de prendre l'occasion de voir plus d'amis pendant qu'il fait encore assez chaud, quoi.
Pourtant, ils sont conscients que quelque chose ne va pas et ils se posent des questions.
Je dirais pas qu'on culpabilise, mais on s'interroge quand même sur la raison de cette chaleur-là et l'impact que ça peut avoir dans le futur, en fait. On se rend compte que comme on a des étés qui durent plus longtemps, des étés beaucoup plus chauds, on se dit qu'est-ce que sera plus tard et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on revienne entre guillemets à une normale en soi.
Un peu plus loin, à la terrasse d'un autre bar, on a rencontré Lona et Mathieu.
C'est vrai que en fait c'était spécial d'être en t-shirt sweatshirt en octobre.
Lona nous fait part d'une certaine inquiétude.
J'ai du mal à accepter, même si la température est agréable. Je me dis si il fait cette température, c'est que c'est vraiment problématique. On a atteint un seuil. C'est un peu flippant.
On s'est ensuite dirigé vers la montagne Sainte-Geneviève pour connaître l'avis des patrons.
Pas forcément.
Karim, responsable d'un petit bistrot près de la Sorbonne, a ressenti quelques changements.
Après, sur la clientèle, ouais, ça circule un peu plus, les gens sortent un peu plus, donc il fait un peu plus chaud.
Karim nous avoue qu'il n'est pas insensible à ces températures.
Oui, on se dit que c'est pas normal qu'il fasse aussi chaud, surtout à cette période. Mais nous, ouais, personnellement, ça nous inquiète, parce qu'on n'est pas habitué à avoir des températures comme ça en novembre.
À deux pas de là, Edouard, responsable d'un restaurant avec une belle terrasse, nous confie que ça a été plutôt bénéfique pour son affaire.
On l'a senti aussi parce qu'on a pu mettre du monde dehors, ce qui n'est pas toujours le cas cette période. La terrasse n'étant pas encore fermée, ça nous a été profitable.
Mais il y a bien un contre-effet.
On en profite, on est content d'en profiter, après ça reste inquiétant.
Thibault, responsable du petit café place Jacqueline de Romy, nous a partagé son ressenti de ce mois d'octobre.
Même les deux semaines avant où il avait commencé à faire froid, on vendait plus de chocolat et de café, et la semaine où il a fait vraiment 20-25 degrés sur les jours, beaucoup moins de boissons chaudes, beaucoup plus de spritz et de cocktails.
Et selon lui, est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'on en culpabilise?
Un peu des deux, comme tout le monde. On aime bien aller en terrasse, et comme les gens qui vont aiment bien aller en terrasse tout en se disant que c'est pas normal, nous on sait que c'est pas normal, mais oui, pour les affaires c'est mieux, ça c'est certain. C'est mieux à Paris en tout cas.
Pour autant, gare aux excès de chaleur.
Oui, déjà, ouais. Mais presque trop chaud pour le coup. La canicule, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux en l'occurrence pour la fréquentation. Donc en plus, quand on a une terrasse au soleil, c'est pas ce qu'il y a de mieux quand il fait 40 degrés déjà à Londres.
Alors, faut-il en profiter? Faut-il culpabiliser? Cette vague de chaleur a même touché l'Europe tout entière qui vient de connaître son mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré selon le service Copernicus.
Et vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous en avez profité? Est-ce que vous avez culpabilisé de ces températures exceptionnelles qu'on a connues au mois d'octobre? Ce n'est plus, bien sûr, d'actualité aujourd'hui, mais voilà, les réponses que recueillit Tibor avec le petit micro RSU qui s'est baladé dans le quartier latin. Vous le croiserez, vous, sans doute aussi bientôt, notre micro avec siglé RSU. N'hésitez pas à venir répondre à nos questions. Vous êtes toujours sur Cours d'honneur dans Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'heure de la chronique débrouille.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table!
Le Le soleil, c'était avant, on vient de l'entendre. Maintenant que le froid de novembre nous rattrape, nous n'avons plus qu'une seule envie, passer la soirée au chaud, sous un plaid, devant un bon film. Mais à RSU, on pense avoir trouvé l'argument de taille pour vous faire sortir de ce lit. Des sorties culturelles à petit prix grâce à la billetterie étudiante du Crous de Paris. Rosalia vous en parle dans la chronique des brouilles.
Un plaid et un bon film, c'est exactement ce dont je rêvais hier avant de découvrir ce bon plan proposé par le service culturel du Crous. Surtout que lorsqu'on vit à Paris, c'est souvent plus facile de rester chez soi que de se bouger pour faire des sorties culturelles. Et ce pour mille et une raisons. Trop cher, trop loin, trop de choix. Mais bon, maintenant que j'ai découvert la billetterie étudiante du Crous de Paris, je n'ai plus d'excuses. Elle offre l'occasion de pénétrer dans les lieux culturels parisiens les plus renommés pour une somme parfois dérisoire. En voyant tous les spectacles qui étaient proposés, j'ai eu des paillettes dans les yeux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça va des spectacles de stand-up à l'opéra, en passant par les concerts et le théâtre. On peut par exemple assister à un spectacle de la Comédie Française pour 5,19€ au lieu de 11€, à un concert d'Orelsan pour 22,19€ au lieu de 45€, ou à un show de l'humoriste Jimo pour 12,95€ au lieu de 32€.
Ah, si j'avais su, j'aurais payé mon concert d'Orelsan moins cher. C'est génial en tout cas, ça, Rosalie, qui peut en profiter.
Alors, c'est une offre qui s'adresse aux étudiants et aux personnes qui sont en apprentissage, en stage ou en service civique en Ile-de-France.
Ouais, bon, ça fait quelques temps que je suis plus étudiant. Comment ça marche ?
Allez sur la billetterie étudiante du Crous de Paris, parcourez l'ensemble de la programmation, sélectionnez l'événement qui vous intéresse et créez votre compte. Il faudra ensuite attendre quelques minutes ou quelques heures, le temps qu'il soit validé par le service culturel du Crous. Moi, ça a pris 15 minutes. Une fois qu'il sera activé, vous pourrez enfin acheter votre billet au tarif très avantageux proposé par le Crous. Mais attention, je vous le dis maintenant pour éviter les déceptions, les événements les plus cotés des mois de novembre et décembre sont souvent déjà complets. Mais rassurez-vous, il en reste d'autres tout aussi chouettes et de nouveaux seront bientôt mis en ligne pour les mois à venir. J'ai moi-même pris une place hier pour la pièce Dogs of Europe qui sera jouée au Théâtre de l'Europe le 11 décembre. Alors si vous décidez de profiter de ce bon plan, on s'y croisera peut-être.
Merci Rosalia.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord.
Allez, place à la revue de presse
des féministes.
We are pure, we are strong, we are brave and we will fight.
La revue de presse des féministes avec Clara. Salut Clara.
Salut.
Dans ta revue de presse, tu reviens sur les actualités féministes qui ont marqué ces derniers jours. Politique, culture, rien ne t'échappe. Alors dis-nous Clara, quelles sont les dernières infos féministes ?
Après l'école et le travail, les femmes privées de parcs et de bains publics en Afghanistan. Début novembre, les talibans ont franchi une étape supplémentaire dans l'exclusion des femmes de l'espace public. Elles n'ont désormais plus le droit d'accéder aux parcs et aux bains publics de la capitale. D'abord, il y a eu les restrictions sur l'éducation des filles, puis sur le droit des femmes à travailler, puis l'application d'un code vestimentaire strict. Cette nouvelle mesure fait suite à la décision du ministère Taliban pour la promotion de la vertu et la prévention du vice. Il reste maintenant à savoir si cette nouvelle interdiction s'étendra au-delà de la capitale afghane.
Excellente nomination pour ces ministères. L'inscription du droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la constitution adoptée en commission à l'Assemblée nationale.
Et oui, c'est un premier pas vers l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Les députés ont validé le 9 novembre une proposition de loi constitutionnelle allant dans ce sens. L'enjeu est en partie de se prémunir d'éventuelles mises en danger de ce droit, comme on a pu l'observer aux États-Unis récemment. Le court texte, adopté mercredi 9 novembre, porté par Aurore Berger, doit désormais être examiné dans l'hémicycle dans la semaine du 28 novembre. Les députés qui défendent l'inscription du droit à l'IVG font partie du champ gauche de l'échiquier politique ainsi que de la majorité.
Et puis la nouvelle de la semaine, c'est la fin des maths en option. Dès la rentrée prochaine, en 2023, les maths redeviendront obligatoires pour tous les lycéens, Clara.
Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé dimanche dernier le retour du caractère obligatoire des mathématiques à la rentrée 2023 pour tous les lycéens dès la filière générale, dès la première. Cela met ainsi fin à l'une des mesures les plus controversées de la réforme Blanquer.
Elle n'aura pas fait long feu, cette réforme. Cette mesure, d'ailleurs, avait inquiété toute la communauté éducative.
Oui, elle était soupçonnée de renforcer les inégalités sociales et de genre. D'ailleurs, le retour à l'obligation des mathématiques s'inscrit dans une stratégie pilotée par le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui vise à faire de 2023 l'année de promotion des mathématiques.
Et puis quelques brèves pour terminer en accéléré, Clara.
Des résultats prometteurs concernant un vaccin capable de lutter contre un cancer du sein spécifique, oui, il en existe plusieurs formes, viennent d'être publiés. Ensuite, un rapport de la Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques, l'ADRES, nous informe que les femmes retraitées touchent en moyenne 40% de moins que les hommes. L'écart est bien plus élevé dans le privé que chez les fonctionnaires. Enfin, un peu de légèreté dans ce monde de brut, le comité d'organisation des JO 2024 à Paris a dévoilé ce lundi les deux fameuses mascottes appelées les Friges, en référence au bonnet phrygien révolutionnaire. Seulement voilà, beaucoup d'internautes ne voient dans cela qu'un clitoris. Qui sait, peut-être que ces mascottes symbolisent aussi le plaisir féminin.
Des plaisirs féminins ou des hommes qui n'ont peut-être jamais vu de clitoris. En tout cas, je vois qu'autour de la table, ça fait sourire. Non, ça, vous les avez vus, ces mascottes, hein? Vous en avez pensé quoi, Rosalia, par exemple? Alors, le micro est un peu capricieux, faisant attention, Rosalia.
Moi, je ne l'ai pas encore vu.
T'as pas encore vu? Bon, quelqu'un les a vus, Emma, Abel?
Alors, je les ai vus et je confirme.
Tu confirmes que ça ressemble à un clitoris, t'en as vu beaucoup?
Beaucoup.
Incroyable. Emma, non? Tu as un avis? Est-ce que t'as déjà vu un bonnet phrygien? Non, parce que tout le monde rigole là-dessus, mais personne n'a vu un bonnet phrygien jusqu'à aujourd'hui.
Bah, j'ai une image en tête, mais du coup, ça ressemble plus trop à un bonnet phrygien, quoi.
Emma, tu restes avec nous, parce que maintenant, on passe à la critique.
Hey, this is not a test. This is rock and roll.
Emma, tu as fait un bond dans le temps pour découvrir une pépite de la télé française que je connais bien. Dieu que je suis vieux. Et tu nous invites à le redécouvrir. Les Shadok, créés par Jacques Rouxel.
Oui, vous avez sûrement déjà eu ce ou cette prof passionné par un sujet, un film, un livre ou une série, et qui ne pouvait pas s'empêcher d'en parler à quasiment chaque cours. C'est le cas de mon prof d'histoire des médias, qui adore et qui a travaillé sur les Shadok. Après avoir passé quelques semaines dans l'obscurité, je me suis renseignée et je dois dire que moi aussi, je trouve ça vraiment incroyable. Bon alors, qu'est-ce que c'est les Shadok? Les Shadok, c'est un ovni télévisuel apparu dans la galaxie audiovisuelle française en 1968, à l'ère de l'ORTF, à la veille de mai 68, alors que la télé n'avait que deux chaînes. Cette série composée d'épisodes de 2 à 3 minutes était diffusée après les informations du soir. Imaginez ça aujourd'hui après le JT de 20h. Cette série animée absurde possible mais pas dénuée de sens parle des Shadok et des gibis, des créatures non genrées, qui lassées des défauts de leur planète respective, celle des Shadok change de forme, celle des gibis est plate, se lance à la conquête de la Terre, jusque-là inhabitée.
Les Shadok et les gibis, qui vivent sur des planètes différentes, ont décidé d'aller sur la Terre. Mais ce n'était pas si facile que ça.
Les Shadok sont des oiseaux bizarres, gauches et mal faits. Les gibis sont de petites créatures intelligentes en forme de gélules. Claude Pieplu, le narrateur à la voix singulière et si drôle, saura vous les présenter beaucoup mieux que moi.
Les Shadok ressemblaient à des oiseaux. Ils avaient un bec et des pattes, mais leurs ailes étaient ridiculement minuscules. Les Shadok sont excessivement méchants. Les gibis étaient de petits animaux très gentils avec un petit chapeau sur la tête pour pouvoir se dire bonjour. Et ils étaient très, très intelligents.
L'animation et les dessins sont très rudimentaires. Ils accompagnent la dimension absurde des Shadok et les rendent encore plus drôles. Aujourd'hui et même hier, un tel programme diffusé sur le service public semble tellement improbable et c'est pour ça que je trouve ça génial. L'insolence et l'absurdité esthétique et narrative des Shadok a divisé les Françaises et les Français. D'un côté, il y a ceux qui trouvent le programme, je cite, « immonde » ou signé d'auteur analphabète. Et de l'autre côté, il y a ceux qui apprécient un programme qui ne fait que représenter l'absurdité de nos modes de vie et de nos croyances. Les Shadok pompent, sans trop savoir pourquoi, comme un ouvrier qui travaille à la chaîne dans une usine. tout ce qui s'apparente à la science s'en mêle dans un discours incompréhensible.
Quand les Shadocks se trouvaient devant un grave problème et qu'ils ne voyaient pas très bien comment faire, eh bien, ils pompaient. De toute façon, ils disaient, ça ne pouvait pas nuire. Ils avaient mis au point aussi des pompes spéciales pour les cas où il n'y avait pas de problème du tout. Pour ceux de nos téléspectateurs que la technique intéresse, disons que quand on pompait avec ça, non seulement il ne se passait rien comme avec une pompe Shadock ordinaire, mais plus on pompait, plus il n'y avait rien qui se passait. C'était quand même une sécurité.
En fait, Jacques Rouxel, le créateur, se sert des Shadocks comme d'une allégorie de la société française. Jusqu'en 1973, deux autres saisons seront diffusées et une dernière sortira en 2000 sur Canal+. Toutes les saisons sont disponibles sur la page YouTube de l'INA. Je vous conseille fortement d'y jeter un œil. Finalement, on peut résumer les Shadocks par leur propre maxime. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Un vrai ovni télévisuel. Merci Emma pour ce résumé, ce bond dans le temps que sont les Shadocks. On va écouter un petit truc maintenant. Ça s'appelle Suzy de Muddy Monk. C'est une dédicace à mon ami Manon qui vient d'avoir son premier enfant et qui ne s'appelle pas Suzy, s'appelle Armand. Mais j'ai pas trouvé de chanson sympa qui s'appelait Armand malheureusement. Par contre Suzy, c'est le nom de son chien. C'est le nom de Guillaume Dietrich qui nous concocte ça dans son premier album. Son premier EP Ultra Dramatic Kid. Cours d'honneur, on s'écoutait Suzy de Muddy Monk sur Radio Campus Paris. Allez, maintenant on regarde un petit peu, je crois qu'on a du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Et c'est l'ami Abel qui nous a envoyé une carte postale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Carte Postale, nous avons choisi de vous emmener dans le lieu où se concentre la réflexion intellectuelle étudiante. Rien que ça. Là où on remet sa scolarité et même sa vie en question autour d'un DM fini dans l'urgence. Tout cela surplombé de ce silence imperturbable, presque sacré. C'est évidemment, vous l'aurez deviné, la bibliothèque universitaire du campus de Port-de-Clignancourt que vous allez découvrir.
Bonjour à tous, moi c'est Abel et aujourd'hui on vous emmène visiter la BU de Clignancourt. Donc on entre là au rez-de-chaussée. Donc vous vous imaginez, c'est un grand lieu avec des rangées de livres que vous pouvez emprunter. On a sur votre droite là le bureau des bibliothécaires, comme on l'appelle. Et puis vous avez des tables où les étudiants peuvent venir travailler. La déco, c'est spécial parce que c'est des câbles apparents. Ils ont décidé de tout laisser apparent. Les néons et les câbles sont apparents, il n'y a pas de faux plafond. Et sinon, c'est dans le style du campus de Clignancourt, hein, donc du béton armé et des sortes de plaques de métal de couleur assez tapante. C'est pas très à mon goût.
Je vois beaucoup de feuilles sur les tables. Ça va travailler dur. Les partiels, c'est bientôt.
Rentrons ici dans la rangée Histoire universelle. Et hop, on va aller chercher. Donc là, on est à la section Histoire universelle du 19e siècle. Hein. Donc en gros, des manuels qui racontent à peu près toute l'histoire du monde sur une période. Donc on a le livre de Bernstein et Milza, deux historiens assez connus. Donc c'est sur l'histoire du 19e siècle aux éditions Hatier, si ça vous intéresse. Assez complet. Escalier en métal, hein, toujours dans ce style assez brut hein, de la bibliothèque de Clignancourt. Des études de genre, voilà, des groupes sociaux, là on a femmes et histoire. On peut lire histoire des femmes, de l'Antiquité au Moyen-Âge, au 19e siècle.
Il y a beaucoup d'étudiants là, tu trouves, par rapport à l'étude ?
Il y en a. Non. Des fois on a des fois du mal à trouver des places assises ici, donc on nous dévisage un peu, mais ils ont pas l'air très concentrés. Hein. Mais bon, on chuchote quand même.
C'est dans longtemps les partiels.
Ah non, c'est juste après les vacances, donc dans un mois, c'est les partiels.
Ouais, bon, c'est tout le temps en vacances, non ?
Ouais, bah on est étudiant. Des fois, empruntés par les équipes de Radio Mage pour enregistrer leurs épisodes. C'est des salles réservables hein, pour travailler en groupe. C'est un bus comme vous pouvez l'imaginer, hein. C'est un homme, 60 ans, une perruque, une sorte de petit nœud papillon d'époque, on va dire, avec une sorte de manteau. Le buste est beige, hein. On dirait que c'est du marbre, mais bon, ça doit être du faux. Ça sonne creux, c'est du ciment. Le socle, c'est vrai, c'est toujours dans le style déco porte de Clignancourt. C'est des rectangles de plexiglas agencés, mais de manière assez spéciale, hein, pas les unes sur les autres. De couleurs aussi, hein, des couleurs vives qui rappellent la charte graphique du campus de Clignancourt. Le jaune pour l'histoire, le bleu pour la philosophie. Je crois que le violet, c'est pour la sociologie, si je me trompe pas. C'est quand même pratique d'avoir une bibliothèque universitaire dans son campus. Honnêtement, elle est bien fournie. Hein. Il y a des ordinateurs, les chaises sont à peu près confortables. Il y a des prises à chaque table, des lampes à chaque table, ce qui n'est pas le cas partout. Il y a des salles réservables. Bon, la déco, comme on l'a dit, laisse à désirer, mais honnêtement, c'est une bonne bibliothèque pour venir réviser.
Tu lui mets la note de combien ?
Allez, sur 10. 7 sur 10. J'attends de voir mes notes au partiel.
Ouais, on espère que tu auras bien révisé dans cette bibliothèque universitaire, Abel. Qui nous a écrit, parce qu'on aime bien les cartes postales, comme votre grand-mère d'ailleurs. N'hésitez pas vous aussi à nous parler des lieux que vous préférez au sein de la Sorbonne. On continue et on termine dans cours d'honneur, comme toujours avec le pavé de culture.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui veulent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas ?
Le pavé de culture, les savoirs inutiles, donc complètement indispensables. Chaque mois, je vous raconte une anecdote méconnue sur l'histoire de la Sorbonne. Et pour cet épisode, voici le SOS d'un orgue en détresse. Tous les auditeurs bien avertis qui nous écoutent savent très bien de quand date la Sorbonne. 1257 sur ma gauche, c'était 1253, 13e siècle donc, sous l'égide de Robert de Sorbon, qui construit à l'époque seulement un collège de théologie.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Et oui, parce qu'une école pour un grand nombre, c'était la volonté de Charlemagne, à l'époque carolingienne. Notre Sorbonne est la digne héritière de cette idéologie. On construit un lieu pour accueillir, loger tous les jeunes aspirants théologiens qui veulent se faire moines. Paris était, depuis le XIIe siècle, une des villes qui comptait le plus grand nombre d'étudiants au monde. L'université de Paris voit le jour sous l'impulsion de Philippe Auguste, celui qui avait posé les premiers pavés à Paris. Oui, rappelez-vous de ma première chronique. Voilà, je vois bien que ça suit au fond de la salle. Donc on construit plusieurs bâtiments disparates qui finiront d'ailleurs tous par être détruits et un homme viendra mettre de l'ordre pour aligner tout ça.
C'est un bordel.
Richelieu, himself, étudiant puis proviseur à la Sorbonne, cardinal puis ministre et quasiment premier ministre.
Alors au fond de la Sorbonne, aujourd'hui encore s'élève le dernier vestige de la Sorbonne du XVIIe siècle. Une chapelle construite à la demande donc de Richelieu et à ses frais, dans un style antique qui était très en vogue à l'époque. À l'intérieur, il y a une surprise, le Saint des Saints, ce à quoi Richelieu tenait le plus, son propre mausolée. La chapelle abrite en effet le tombeau de Richelieu où reposent ses restes, un tombeau de marbre surmonté d'un chapeau rouge de cardinal. Ainsi fut inhumé Richelieu au cœur même de la Sorbonne. On raconte d'ailleurs qu'il ne reste que le crâne de Richelieu, puisqu'il y a eu les vicissitudes de la Révolution française. Le corps de Richelieu a été exhumé, maltraité par les révolutionnaires, sa caboche a eu en effet une sacrée destinée. Quand on profane le tombeau à la Révolution, il y a un certain Alexandre Lenoir, le fondateur du musée des monuments français, celui qui a tenté de sauver les sépultures des rois face à la fureur des révolutionnaires. Il a été présent quand on a exhumé Richelieu de son tombeau, momifié, et il n'est pas enterré tout seul. Il y a 27 membres de sa famille qui reposent sous la coupole, mais aussi, et c'est moins connu, 12 enseignants reposent dans la crypte sous la chapelle. Ce sont des membres de la résistance, morts fusillés ou dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis également 5 lycéens du lycée Buffon qui ont activement résisté et finir par être attrapés, jugés et fusillés par la Luftwaffe. Bon, j'ai conscience que vous vous demandez à quel moment est-ce que je vais finir par parler de l'instrument le plus célèbre de la Sorbonne. Le sommet du dôme domine donc le quartier latin du haut de ses 50 mètres et recèle l'instrument non transformé le plus ancien de la capitale, un orgue. L'instrument fut inauguré le 10 juillet 1825 à l'occasion de la restauration de la chapelle. L'orgue est aujourd'hui condamné au silence. Il est injouable depuis le départ de son créateur en 1859. Il est pourtant le témoin le plus authentique à Paris de la facture d'orgue de l'ancien régime. La moitié des tuyaux de l'orgue ont été volés, la chapelle est en très mauvais état depuis la tempête de 1999. Et surtout, eh bien, la dispersion des responsabilités n'arrange rien. La chapelle, en effet, appartient à la ville, mais c'est le rectorat qui en contrôle l'accès. L'État reste engagé par le classement monument historique. Et donc on a un orgue qui au final n'a joué que 34 ans, mais qui est un instrument unique, monumental, historique, témoin d'un passé perdu. Il est néanmoins homogène et pourrait être restauré. Les tuyaux pourraient résonner de nouveau, son clavier grippé, repartir et faire entendre triomphalement ces jeux de Cromorne, de Nazar et de Larigot. Sachez qu'il existe deux grandes familles. L'orgue classique du XVIIe siècle avec une grande variété de sonorités et l'orgue romantique du milieu du XIXe qui cherche davantage à imiter l'orchestre symphonique. Celui qui se trouve à la Sorbonne, eh bien, il se glisse exactement entre ces deux courants. Et donc une remise en état permettrait de découvrir tout un répertoire encore méconnu aujourd'hui puisque jouer un morceau sur tel ou tel orgue change toute la sonorité. Cela dit, pour réparer cet orgue, il nous faudrait au moins 1,5 million d'euros. C'est le prix d'un rond-point en moyenne en France. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à la fin de Cours d'honneur, épisode 12. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram. Tous les épisodes des précédents sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcasts connues. Et dans ta fac aussi, tu peux nous rencontrer. Parfois, n'hésite pas à nous solliciter, à nous rejoindre même. Pour l'heure, je remercie toute l'équipe. Sixtine, Pauline, Tibor, Rosalia, Clara, Emma, Abel. Et merci au service culturel pour son soutien. On se retrouve dans un mois. D'ici là, restez curieux, soyez fous. Et n'oubliez pas, tout est possible. Ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ah, ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.